Décryptage, Marie Casadebé.
Au Japon, Shinzo Abe est sur la sellette, mis en cause dans un scandale foncier. Son avenir est plus qu'incertain. Il y a quelques mois, il avait promis de démissionner si son nom ou celui de sa femme était cité. Mais après des révélations plus qu'embarrassantes dans la presse, Shinzo Abe n'a fait que présenter des excuses pour la crise de confiance occasionnée. C'était dimanche dernier lors de la convention annuelle de son parti.
Je suis très conscient de ma responsabilité en tant que chef du gouvernement. Et je voudrais à nouveau présenter mes profondes excuses au peuple.
À quel point ce scandale remet en cause l'avenir politique du Premier ministre qui pourrait bien battre le record de longévité au Japon? Sa succession a-t-elle déjà été envisagée? Et l'opposition dans tout cela, quelle carte a-t-elle à jouer? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Guy Bourg-de-Lamotte.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques au département d'études japonaises de l'INALCO, c'est l'Institut français des langues et civilisations orientales. Selon un très récent sondage, la cote de confiance de Shinzo Abe est tombée à 30%. Quelle était la popularité du Premier ministre finalement avant que le scandale éclate? Et c'était il y a déjà un an.
Alors avant l'éclatement du scandale, elle était autour de 50%. Donc elle a énormément baissé là. Selon les instituts, bon, ça va de 30 à 40%, mais en effet, le par exemple TV Asahi, qui est un média populaire, donne pour cote, oui, en effet 30%.
Quelle image Shinzo Abe a auprès des Japonais, et est-ce que cette image a été vraiment écornée cette dernière année?
Elle est vraiment écornée là actuellement. En fait, le ministère des Finances aurait donc noirci des documents, semble-t-il, qui incriminaient le Premier ministre ou son entourage, on ne sait pas très bien, dans le cadre d'une vente d'un terrain à une école dans la région d'Osaka. En effet, l'impossibilité de donner des explications, le silence pour le moment du ministère, malgré le fait qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire, il y a une procédure judiciaire en cours également. Tout ça fait vraiment des ordre et très mauvaise impression. Et là, les Japonais ne sont pas contents.
Mais quelle image a-t-il? Comment il est qualifié? Comment on parle de lui au Japon, de sa personnalité?
Alors, il y avait déjà plusieurs sujets, disons, qui avaient mécontenté beaucoup de Japonais. La réforme du système de défense en 2015, la réouverture de centrales nucléaires également à un moment donné, un peu avant. Donc, il y avait déjà des sujets, disons, sur lesquels il avait fait des choix qui gênaient un peu. Mais malgré tout, dans l'ensemble, les Japonais étaient plutôt contents de son programme politique. En particulier en 2012, il y avait un élan qu'il avait donné et il semblait extrêmement disposé à s'engager contre la déflation. Économiquement, il a quand même cherché à donner un élan et la croissance est un peu repartie. Donc ça, c'était plutôt à son actif, mais là, le mécontentement semble l'emporter.
Alors, donc vous le disiez, hein, il est soupçonné de favoritisme, donc d'être impliqué dans cette vente de terrain de l'État, un terrain donc qui aurait été cédé à 10% de sa valeur pour la construction d'une école privée. Mais en réalité, c'est le couple Abe, le Premier ministre et sa femme, qui sont suspectés dans cette affaire. Est-ce qu'on sait à peu près quel rôle aurait joué son épouse, Aki Abe?
Alors oui, c'est-à-dire en effet, le Premier ministre ne serait pas impliqué directement, ce serait son épouse qui est directrice honoraire de cet établissement, qui aurait donc été, enfin c'est par son biais en tout cas qu'il est incriminé, et il semble donc que les passages noircis aient directement évoqué des consignes, disons, du Premier ministre ou de son entourage, bon, ce qui reste à démontrer, évidemment. Madame Akiye, son prénom, elle avait été assez discrète là ces derniers temps, et au point de départ, au début de la du gouvernement Abe en 2012, donc elle s'était fait remarquer autour du mouvement gay et lesbien, donc elle était plutôt considérée comme assez libérale en fait, et les gens la trouvaient avenante et plutôt discrète dans son rôle, donc elle n'était pas il n'y avait pas de sujet là de mécontentement particulier.
Je lisais qu'on pouvait l'appeler le parti d'opposition au sein du foyer, c'est-à-dire qu'elle a pris des positions très différentes de celles de son mari.
Oui,
vous parliez
ça.
déjà du soutien au mouvement LGBT. Ça ne ressemble pas du tout aux positions de son mari.
Non, exactement. Abe. En même temps, elle prenait pas position contre son mari sur des sujets qui risquaient de compromettre sa carrière ou de poser problème. Donc là, en l'occurrence, c'était plutôt une manière d'être complémentaire et de changer un petit peu son image ou de la modifier un peu. Donc effectivement, elle passait plutôt pour progressiste. Bon, et là, en effet, là, le problème est arrivé par elle.
Voilà, et aujourd'hui, donc 65% là, pour reprendre un sondage des Japonais, veulent qu'elle s'exprime devant le Parlement. Pour l'instant, c'est pas envisagé. L'école primaire qui devait être construite sur ce fameux terrain, c'est pas n'importe quel type d'école aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de ce couple, ou en tout cas de Madame Abe?
Alors, c'est une école qui est en effet ultra conservatrice, où semble-t-il on rend hommage à l'empereur comme on le faisait avant-guerre, donc ce qui est assez atypique, enfin dans le contexte malgré tout éducatif japonais, c'est rare. Donc c'est une école vraiment ultra conservatrice. Le couple, on sait qu'il est conservateur, monsieur Abe, il a mis de l'eau dans son vin, disons depuis 2013 à dire vrai, parce qu'en 2013 il s'est rendu au sanctuaire qui s'appelle le Yasukuni, qui est assez controversé, mais depuis il a fait vraiment très attention à ses positions sur l'histoire, à la manière dont il parlait publiquement, dont il s'exprimait. Donc il a vraiment cherché à tempérer l'image ultranationaliste qui pouvait lui coller un peu à la peau, du fait de nominations par exemple qu'il y avait eu à la NHK, du fait de positions antérieures sur les femmes de réconfort. Voilà, donc on sait quelles sont ses opinions, mais il s'était gardé de les exprimer très clairement, en tout cas depuis, disons, 2013-2014.
Et elle semble finalement revenir un petit peu à travers aussi cette affaire. Est-ce que ça a une importance dans le scandale, que ce soit lié justement à ce type d'école, comme vous dites, et les valeurs qu'elle transmet?
Alors ça, en tant que tel, c'est pas tellement ce qui gêne. Ce qui pose problème, c'est vraiment le côté absence de transparence, ouais. Manigance, le problème de la falsification des documents, l'absence de possibilité maintenant de déterminer qui a fait quoi, par qui les consignes ont été données. Ça, c'est vraiment ce qui gêne. Donc, c'est puisque le processus démocratique.
Voilà, puisque le gouvernement donc s'est défendu à coup de documents officiels, et puis la presse révèle il y a quelques semaines que ces documents auraient été, donc vous disiez, falsifiés, que toute trace de l'intervention de la première dame aurait été effacée, et une affaire en plus qui tourne au tragique avec le suicide d'un fonctionnaire du bureau local lié à la vente du terrain. Guibourg Delamotte, est-ce que le Japon a l'habitude de gérer ce genre d'affaires au plus haut niveau de l'État?
Alors, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une affaire de cet ordre, des scandales qui impliquent la classe politique. Il y en a de temps en temps qui mettent en cause des ministres, des scandales à la limite des scandales de mœurs. Enfin, tout ça, il y en a eu. Il y a parfois on fait beaucoup de bruit pour rien, disons. Par exemple, j'ai souvenir d'un leader du Parti démocrate qui avait été inquiété parce qu'il avait reçu une donation de 2000 yens, donc ce qui est pour rien. Hein, ou peut-être un petit peu plus, mais enfin une somme qui restait très minime d'une sud-coréenne, donc il n'était pas censé le faire. Donc c'était effectivement une infraction de fait à la législation, mais enfin parfois on peut sembler assez pointilleux, vous voyez, même pour une affaire à un moment donné des éventails qui coûtaient 13 yens, donc c'est une infraction à la législation électorale. Ces éventails avaient été distribués, donc c'était considéré comme du clientélisme, enfin, donc vous voyez,
pendant une campagne
la législation peut vraiment aller très loin. Donc des soucis plus ou moins mineurs, enfin, ou importants avec la classe politique, il y a pu y en avoir. Celui-là, il est quand même très, très ennuyeux, oui.
Donc, l'avenir de Shinzo Abe est incertain. Hein. Pourtant, le Premier ministre a fait en sorte de pouvoir se maintenir au pouvoir, en théorie, jusqu'en 2021, et ce, grâce aux élections législatives anticipées qu'il a convoquées en octobre dernier et qu'il a remportées. Et à cette époque-là, la menace nord-coréenne se concrétisait avec des tirs de missiles au-dessus du Japon. Le sujet était au cœur de la campagne de son parti, le PLD.
Des missiles ont survolé le Japon, certes, mais je ne ressens pas de menace particulière. Alors oui, bien sûr, c'est important de protéger la nation, mais le Japon a d'autres problèmes à régler à l'intérieur du pays.
J'allais souvent en voyage en Corée du Sud, mais je n'y vais plus depuis qu'il y a ce problème de missiles, parce que ça fait peur.
J'ai l'impression qu'on attise une crainte sans fondement, et je pense que le gouvernement Abe agite la menace nord-coréenne. Il s'en sert pour entretenir sa cote de popularité.
Dibord de la Motte, votre réaction à ces propos recueillis donc juste avant les élections par notre correspondant, les menaces nord-coréennes ont-elles vraiment joué un rôle en faveur de la réaction de Shinzo Abe à un moment où ce scandale, le scandale qu'on évoquait, existait déjà?
Oui, certainement, elles ont cette disons la vieille rengaine de la menace qui fonctionne en effet parce que les populations prennent peur et puis donc se rabattent sur ce qu'elles connaissent, mais bon, cette menace elle est réelle, c'est vrai qu'elle est malgré tout agitée également et un peu instrumentalisée. Le gouvernement est bien obligé de s'en prémunir, mais le fait est qu'on en parle beaucoup. Alors les accidents peuvent arriver mais certainement qu'il y a une part d'instrumentalisation politique là, de ce côté-là.
Oui, alors du coup, justement, c'était ces menaces la politique japonaise vis-à-vis de Pyongyang, qui était l'une des raisons avancées par le Premier ministre pour justifier la convocation de ces élections anticipées. On sait que l'une des ambitions de Shinzo Abe, c'est de modifier la constitution. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça va un peu dans le même sens justement, brandir la menace nord-coréenne comme il a pu le faire pendant la campagne.
Alors, la constitution, la révision de la constitution, c'est un projet de longue haleine aussi, mais ça fait partie de ces éléments dont je vous disais qu'il a su faire preuve de sens politique et mettre de l'eau dans son vin, c'est qu'il avait une position qui était différente en fait sur la révision de la Constitution. Il l'a beaucoup atténuée. Et là maintenant, la position du PLD, de son parti, donc qui est la sienne, enfin à laquelle il est à l'origine, c'est de simplement modifier l'article 9 et uniquement l'article 9, donc qui est l'article pacifiste, pour mentionner l'existence des forces d'autodéfense. Et on conserverait le terme de force d'autodéfense. Auparavant, il avait été question d'appeler ces forces d'autodéfense une armée d'autodéfense. Vous voyez, ce qui est déjà plus controversé. Les forces d'autodéfense, elles sont maintenant populaires, elles sont maintenant admises, leur existence est quand même bien reconnue et puis elles sont appréciées par les Japonais. Donc l'insertion dans l'article 9, tout en conservant le principe du pacifisme, du rejet d'un potentiel militaire, sauf légitime défense et donc de l'existence de forces d'autodéfense, c'est ce qui serait nouveau, ça pourrait être, c'est plus susceptible, disons, qu'une réforme de plus grande ampleur d'être approuvée par la population qui reste très attachée à cet article 9.
Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça voudrait dire la modification de cet article? Ça voudrait dire on est un pays pacifiste, mais on pourrait quand même faire la guerre.
Non, en fait, ça voudrait rien dire de différent de ce qui est la réalité actuelle. Simplement, ce serait une manière de la décrire qui serait plus juste.
Alors, pourquoi avoir cette ambition affichée cas de se servir justement de la menace nord-coréenne pour parvenir à ses fins? On voit bien qu'avec ce scandale, voilà, on n'est pas sûr que Shinzo Abe puisse aller jusqu'au bout. Mais quelle est l'ambition?
Alors, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire, en fait, la révision de la Constitution et l'insertion des forces d'autodéfense, c'est un objectif à part entière. Disons, c'est pas lié à la menace nord-coréenne, parce que ça ne changerait pas les capacité des forces d'autodéfense. Ça a été fait au moment en 2015, au moment de la réforme du système de défense. Donc là, l'objectif est en fait politique, c'est-à-dire cette constitution, elle a été rédigée malgré tout beaucoup par les autorités américaines au moment de l'occupation. Et donc il y a là une ambition qui est de mettre sa patte en quelque sorte sur cet héritage de l'occupation. Mais malgré tout, bon. Ça a sa signification, et pour les forces d'autodéfense aujourd'hui qui sont amenées à intervenir dans le monde, qui sont dont on souhaite que ça devienne une carrière qui attire des jeunes gens, et bien c'est vrai que quand on leur dit qu'elles ne sont pas constitutionnelles, si vous voulez, à l'heure actuelle, c'est un petit peu gênant. Donc les forces d'autodéfense aimeraient bien que leur situation soit régularisée en quelque sorte. Elles sont nées dans un vide juridique.
Décryptage, Marie Cazadebé.
La suite de notre décryptage sur ce scandale donc qui touche Shinzo Abe, le premier ministre japonais, avec vous, Guibourg de la Motte. Est-ce que pour l'opposition japonaise, justement, ce scandale n'est pas le moment de jouer sa carte? On l'a dit, le PLD, le parti de Shinzo Abe, a remporté largement les législatives anticipées du mois d'octobre. Qu'est-ce que ces élections ont montré de l'état de l'opposition japonaise?
Oui, alors c'est là qu'on a un problème, c'est qu'en effet, l'état de l'opposition, il est désastreux.
C'est résumé.
Alors... ouais, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a, il y avait naguère un parti démocrate qui a éclaté. Il avait toujours été assez divisé. Bon, là maintenant, donc son aile gauche a formé un parti qui est donc de gauche, plus à gauche en tout cas, centre gauche, mais donc clairement affiché. Et puis il y a donc un parti de droite, mais très composite, très probablement de courte durée, enfin dont les perspectives sont limitées, qui a été créé, qui s'appelle le Parti de l'Espoir, créé par la gouverneur de Tokyo. Alors ce parti dont elle n'a d'ailleurs pas de vie politique nationale, cette femme, puisqu'elle est maire de Tokyo, et voilà. Donc ce parti, lui, il est plutôt conservateur, mais il n'a pas de... D'abord, Madame Koike a probablement pas la capacité à réunir plus qu'elle n'a fait, et au-delà, c'est quand même un personnage elle-même assez controversé. Et ce parti, donc, est-ce qu'il peut vraiment gagner plus de la cinquantaine de sièges qu'il a, qu'il a acquis sur le mécontentement, disons, créé à la fois, généré à la fois par les démocrates et par le PLD, les libéraux démocrates, donc conservateurs, ça n'est pas certain. Donc on a une opposition très éclatée et ça pose problème.
Ouais. Alors justement, si on envisage les scénarios possibles, si Shinzo Abe démissionnait, puisque déjà il l'avait promis, si jamais il y avait des preuves avancées qu'il était impliqué dans ce scandale, si jamais il démissionnait, qu'est-ce qui se passerait au Japon ?
Ben, quelqu'un d'autre serait élu. Alors on a évoqué donc le fils de Koizumi, l'ancien premier ministre. Il est quand même très jeune. Ça, je un peu plus tard, pas tout de suite à mon sens. Il y aurait éventuellement l'ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Kishida, qui a fait un bon travail et qui est une personnalité qui est maintenant un peu connue internationalement et puis qui a fait ses preuves nationalement également. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Il y a assez peu de candidats malgré tout au sein du PLD.
Mais là, en tout cas, vous n'envisagez pas une autre solution possible, une autre sortie d'élection possible que la réélection du PLD.
C'est vrai que c'est difficile d'envisager qu'un autre parti remporte une majorité, en effet, des sièges. Ouais.
Le PLD qui, donc, en cas de nouvelles élections, devra de toute façon assumer le bilan de Shinzo Abe. Côté emploi, le Japon a de quoi faire rêver. Hein. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 1993, 2,4% début d'année. Et cela s'entend dans la bouche d'étudiants rencontrés par notre correspondant au Japon. C'était lors d'un salon de recrutement à Osaka.
Je voudrais un salaire fixe d'au moins 1 700 euros net, avec une prime la première année de 1 500, plutôt 3 000 euros. Pas trop d'heures supplémentaires et un équilibre entre travail et loisirs qui me permettrait de prendre des vacances et partir en voyage quand je veux. Au final, je choisirais l'entreprise dans laquelle j'ai le plus envie de travailler.
Je pense que je vais comparer une quinzaine d'employeurs pour voir celui qui me correspond le mieux. Mon choix se portera sur celui qui me permettra le plus de m'éclater et pour lequel mon travail aura le plus de sens.
Guibourg de la Motte, Shinzo Abe peut-il s'enorgueillir du bilan économique de ces 5 années passées au pouvoir au Japon? On l'entend, un chômage quasiment inexistant.
Oui, alors le chômage, c'est vrai que c'est une bonne chose. Maintenant, la faiblesse du taux de chômage provient beaucoup du vieillissement de la population et du fait que les statistiques du chômage aussi contribuent à fausser un tout petit peu, parce que dès lors qu'on a travaillé une fois dans la semaine ou dans le mois, on est sorti des statistiques, en fait. Donc il y a cet effet un peu loupe, mais néanmoins, enfin, il est évidemment très bas, ce taux de chômage. Il y a aussi un phénomène au Japon qui est qu'il y a beaucoup de travailleurs à temps partiel, c'est-à-dire de travailleurs qui sont contents en plus d'être à temps partiel, même s'il y a d'autres un autre problème de précarisation par ailleurs des emplois. Mais il y a beaucoup de travailleurs qui sont malgré tout contents d'arrondir leur fin de mois, d'avoir un travail d'appoint. Donc ce sont par exemple des femmes au foyer, des retraités qui complètent leur salaire. Et en fait, ces gens-là contribuent à faire baisser le chômage, c'est-à-dire le taux de chômage est faible parce qu'il y a peu de postes. Mais le problème, c'est qu'il devrait y avoir, les salaires devraient augmenter en fait. Mais il n'augmente pas du fait de la de la disponibilité en fait de ce réservoir de main d'œuvre.
Et vous parliez d'un vieillissement de la population. L'archipel compte 400 000 habitants de moins en 2017 que l'année précédente.
Oui, absolument. Ouais.
Alors est-ce que ça veut dire que, pour conclure cette émission, que le PLD va pouvoir quand même se reposer, si jamais il devait y avoir de nouvelles élections, sur le bilan de Shinzo Abe, ou est-ce que même Shinzo Abe pourrait être reconduit à la tête du PLD grâce à son bilan?
Alors, Shinzo Abe peut pas être conduit à la tête du PLD. Enfin, là, de toute façon, il est élu, là, maintenant, pour son troisième mandat qui devait l'amener en 2021. Donc, s'il démissionne avant, sa carrière en tant que premier ministre, en tout cas, il peut pas enchaîner, il peut pas. Mais, il ne pourrait, en fait, là, il faudrait vraiment qu'il y ait une issue favorable dans ce scandale. Il va falloir, d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait une explication qui soit donnée.
Merci beaucoup. C'est une explication que l'on va attendre. Guibourg de la Motte, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de Décryptage, Éléonore Krenik, Déborah Lepage, Françoise Delignon et Claude Battista. Tout de suite, le journal.